demande de bien vouloir demander à cette personne de retirer son voile. C'est la République et c'est la laïcité.
On va sortir des sorcières de Halloween pour mettre les enfants lors des voyages scolaires. Elle avait qu'à pas mettre son voile, elle n'aurait pas eu de problème.
On s'aime plus les uns les autres. On se méfie les uns des autres.
Voilà maintenant 30 ans que la question du port du voile islamique électrise le débat public en France. Depuis l'affaire des collégiennes de Creil en 1989 jusqu'à la récente sortie d'un élu d'extrême droite contre une maire accompagnatrice au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, la question du port du voile provoque systématiquement des débats très violents qui conduisent bien souvent à la proposition d'interdiction totale du port du voile dans l'espace public, proposition que le Conseil d'État a déjà retoquée à plusieurs reprises. Mais pourquoi le port du voile provoque-t-il chez nous des débats aussi éruptif, alors que dans d'autres pays voisins, il semble accepté avec beaucoup moins de problèmes. Bonjour Philippe Portier.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études, titulaire de la chaire Histoire des sociologies et des laïcités. Le port du voile, c'est une obsession française ?
C'est une obsession française, en grande partie. Il y a évidemment, depuis une trentaine d'années, un effet de diffusion de cette obsession vers d'autres pays, mais toujours à un niveau d'intensité très inférieur. Il n'y a pas d'autres pays où la question est aussi éruptive, sauf dans les années 1980, 1990, 2000, en Turquie. La Turquie qui, portée par Mustafa Kemal, avait pris position en faveur d'une laïcité stricte, très inspirée par Combes, davantage d'ailleurs que par Briand. Briand qui est à l'origine de la loi de 1905 contre Combes. Dans les autres pays, il y a une dissension parfois autour de la question du voile intégral, très peu sur la question du voile simple. Ça a été abordé en Autriche, en Allemagne. En Allemagne, dans un premier temps, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui est l'instance juridictionnelle suprême, décide d'autoriser les États fédérés à interdire pour les fonctionnaires, et en particulier pour les enseignants, le voile simple. Cela a été retoqué récemment, en 2015, par la même Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui a finalement permis aux enseignants de pouvoir porter le voile à l'intérieur des écoles. Certains pays interdisent le voile intégral, je pense en particulier au Danemark, à la Belgique, en partie aussi aux Pays-Bas, mais globalement, cette focalisation qui vient forger la configuration du débat public français, cette configuration n'existe au fond qu'en France.
Ce voile intégral qui est interdit dans les pays que vous venez de citer, il est interdit d'ailleurs pour des raisons de sécurité publique et de dissimulation du visage, ce qui est le cas aussi de la loi de 2004 en France.
2004, c'est la loi sur l'école, et vous aurez ensuite en 2010 une autre loi qui vise à réglementer, interdire la dissimulation du visage dans l'espace public. Il y avait un argument qui relevait de l'ordre public, et puis un autre argument qui touchait aussi à ce qu'on pourrait appeler la dignité des personnes, cette idée que l'égalité homme-femme pouvait être remise en cause par le port de ce voile intégral. Et puis il y avait un troisième élément qui est également très important, c'est que le fait de dissimuler le visage interdit la communication sociale. Cette idée qu'en dissimulant le visage, on ne participe pas aux exigences minimales de la vie en commun, pour reprendre l'expression du Conseil constitutionnel. Il reste tout de même que les autres pays n'ont pas légiféré de la même manière que nous. Pourquoi la France échappe à la règle commune européenne ? Il y a, de ce point de vue, une singularité française dont il faut probablement chercher les origines à la fois dans le temps long. La constitution de l'État en France s'est faite sur le principe de l'unité, mais aussi dans un temps plus moyen qui vise à interroger le rapport que nous avons eu, nous Français, avec l'islam. Les autres pays acceptent volontiers cette idée que l'unité peut se forger dans la multitude. Pour la France, la constitution de notre État-nation s'est faite en s'appuyant sur le principe de l'unité. C'est un révolutionnaire de 1789, André Chénier, qui disait « Heureux le pays qui n'a qu'un seul État ». Et il voulait manifester par cela cette idée que notre collectivité publique doit toujours se constituer autour de l'unité, davantage qu'autour de la différence. À la même époque, l'abbé Grégoire, qui est un autre grand révolutionnaire de cette époque-là, appelle à marginaliser les patois pour faire valoir une langue commune, la langue de la communauté des citoyens qui permettrait à la République de s'édifier. Alors on voit bien qu'il y a là tout un imaginaire qui est un imaginaire de l'homogène, cette idée qu'on est citoyen à partir du moment où on abandonne ces différences pour accéder à l'unité qui nous permettra d'être des citoyens susceptibles d'accéder avec la même raison, la raison universelle, à la délibération collective. Dans les autres pays, on insiste beaucoup plus sur cette idée que la société doit se constituer à partir d'individus pluriels, c'est le cas en particulier des États-Unis, à partir de communautés intermédiaires, c'est le cas en Allemagne. Nous, nous sommes profondément attachés à la théorie de l'État unitaire.
On voit bien comment justement cette notion de communauté aujourd'hui, communautarisme, est très négativement connotée dans le discours politique et dans le discours public.
Non, le concept n'existe d'ailleurs pas dans les autres pays. Il s'installe en France au moment où ressurgit la question laïque. On voit bien lorsqu'on fait des études lexicométriques, c'est-à-dire le calcul des occurrences de mots dans les discours publics, que la question laïque réapparaît dans les années 1990. Et comme par hasard, c'est l'époque aussi où apparaît dans le débat public le concept de communautarisme qui désigne au fond cette attitude sectaire qui vise pour certains groupes à se séparer de l'essentiel national. Ce communautarisme a depuis fait souche. Il est au cœur, comme vous le savez, des discours politiques et pas simplement des discours politiques de l'extrême droite. Il a envahi très largement le débat public jusqu'à la gauche.
Et vous disiez qu'il y avait donc cette vision à long terme et cette vision à plus moyen terme et qui est évidemment directement dirigée contre l'islam et sur autour des difficultés d'intégration, d'après un certain nombre de politiques, de ces communautés islamiques venues du Moyen-Orient et des anciennes colonies françaises.
Nous avons eu, vis-à-vis de l'Orient, une posture que Édouard Saïd appelait une posture orientaliste. Cette idée que nous avons fixé l'Orient dans un certain nombre de traits, et quand on dit l'Orient, c'est en particulier l'Algérie. La femme algérienne est représentée tantôt dans notre imaginaire, dans nos représentations artistiques, comme une femme sensuelle dont on essaye d'érotiser le corps. Mais il en est une seconde, la femme algérienne est la femme qui est celle de la servitude éventuellement volontaire, mais servitude quand même. Et nous allons, à partir en gros des années 1900, photographier ces femmes au sens propre, les montrer dans un asservissement que le voile manifeste. À partir de ce moment-là, se mettra en place tout un dispositif de disciplinarisation dans les colonies et en particulier évidemment en Algérie qui dispose d'un statut départemental particulier. Et l'on verra des féministes, des suffragettes aller diffuser cette bonne parole qui consiste précisément à demander aux femmes de se dévoiler. Des opérations de dévoilement qui trouveront une sorte de paroxysme à la fin des années 1950, au début des années 1960, où les autorités, sous la tutelle du général Massue, du général Salan, contraindront un certain nombre de femmes à se mettre en scène sur l'espace public devant la foule assemblée et, dans un geste finalement de libération imposée, enlèveront leur voile devant le public ainsi rassemblé. Avec des affiches où l'on voit des femmes voilées d'un côté et puis des femmes dévoilées de l'autre et avec cette vignette « Vous aussi, n'êtes-vous pas jolie ?» Le dévoilement ne vient pas des décennies 90-2000. Le dévoilement est une longue histoire dans le rapport que nous avons avec l'islam.
Merci beaucoup Philippe Portier. Je rappelle que vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études et titulaire de la chaire Histoire et sociologie des laïcités.
Merci à vous.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.